Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Pierre Leca, donc je fais partie du Hot Club Jazziroise, qui est une association qui promeut le jazz et le blues à la pointe de la Bretagne en général et plutôt sur la communauté de communes du Pays d'Iroise. Et puis, en discutant au moment de la préparation du tram, etc., on m'a demandé, un peu pour remplacer Alain Boulaire, qui était beaucoup impliqué dans ces affaires-là, de vous raconter l'histoire de l'arrivée du jazz à Brest. Alors en fait, on a commencé à travailler sur le sujet, etc. Et je me suis aperçu qu'il y avait plusieurs histoires dans cette affaire-là. Alors, si vous lisez sur Internet, etc., vous allez apprendre que le jazz est arrivé à Brest en 1917 avec un orchestre. Alors, la légende qui court, en fait, est de dire que, il y avait une base militaire, je vous en reparlerai, ici à Pontanezen, qui était une des plus grosses bases américaines de la guerre 14. C'est là où la plupart des Américains ont débarqué, sont arrivés en France, ont été dispatchés ensuite dans les différents fronts, etc., et sont revenus pour repartir aux États-Unis en 19. Et l'histoire, la légende disait que ces pauvres Américains, et en particulier les gens qui travaillaient sur la base de Brest, qui construisaient la base de Brest, qui étaient en très grande majorité des Noirs, au mois de novembre, ont commencé à avoir le moral dans les chaussettes parce qu'il paraît qu'il ne faisait pas très beau. Alors, et le temps devait être un peu différent. Sans doute, mais c'était certainement très différent de la Louisiane d'où ils venaient pour la plupart, etc. Et la légende disait que l'état-major américain a décidé d'envoyer un orchestre de noirs, de musique noire, pour leur remonter le moral, et qui serait arrivé en 1917 à Brest. Voilà, alors c'est l'idée de départ, c'était ça, et puis beaucoup de gens ont fait des recherches sur le sujet, et on s'aperçoit que c'est pas vraiment complètement ça. Alors du coup, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'effectivement, il y a un orchestre de jazz qui est arrivé à Brest, mais il n'est pas arrivé en 1917. Il est arrivé par un bateau, le Pocahontas. Il est arrivé le 26 décembre 1917, mais en rade. Et il y a eu un problème, ils n'ont pas pu débarquer. Ils n'ont débarqué que le 1er janvier 1918. Donc, première erreur, c'est que c'est en 18 que, officiellement, du moins les traces qu'on a de jazz est arrivé à Brest. Et en plus, alors c'est quand même la coïncidence est extraordinaire, c'est que ce gars-là, ce chef d'orchestre-là qui est arrivé et qui a joué a priori le premier, mais c'est pas sûr, à Brest, celui dont on a la trace, il s'appelait James Reeves Europe. Donc vous êtes à la station de l'Europe. Alors ça n'a rien à voir avec ça, mais la prochaine fois que vous y passerez, vous penserez à ce chef d'orchestre noir américain qui a joué la Marseillaise quand il est arrivé à Brest le 1er janvier 1918. Et sa Marseillaise, elle était jouée par un brass band, par un orchestre de noirs. Et personne ne l'a reconnu au départ. Je vais vous faire écouter un extrait. Donc, c'est juste un petit morceau qu'on a recoupé d'un film.
The regiment arrived in France on New Year's Day, 1918. Europe and his men played the Marseillaise with such drive and excitement that the waiting French crowd took a while to recognize it. Officers were so impressed with Europe's unique sound that they sent the band on a tour of army camps and French villages.
Voilà, alors vous comprenez qu'à l'époque, en 1917, on n'était pas habitué à des musiques un peu syncopées, un peu rythmées, et donc les gens ne l'ont pas reconnu. Il y a un musicien qui a joué ça, qui ne comprenait pas pourquoi, quand on jouait, les soldats qui étaient autour, au moment où ils débarquaient, pourquoi ces soldats ne se mettaient pas au garde-à-vous? En fait, ils n'ont pas compris que c'était la Marseillaise pendant les 5-6 premières mesures. Puis quand ils se sont aperçus, racontent qu'après, ils se sont mis au garde-à-vous. Donc c'est ça, l'arrivée du jazz. Alors est-ce que c'est le jazz? Est-ce que c'est le ragtime? Est-ce que c'est la musique noire américaine à Brest? En tout cas, on va dire que c'est la musique noire américaine. On a une trace qui arrive le 1er janvier 1918 à Brest. Alors, pour revenir, ce James Reeves Europe, c'était quand même un mec assez extraordinaire. Si vous vous replacez dans le contexte de cette époque-là, vous avez la ségrégation aux États-Unis qui est importante, et les Noirs américains n'ont pas le droit de porter des armes dans l'armée, ou très peu. En tout cas, quand ils sont encadrés, ils sont forcément encadrés par des officiers blancs. Il n'y a pas d'officiers noirs, ou très peu. Et quand il y a des officiers noirs, ils sont dans des unités qui sont non combattantes. Et ce régiment, le 319e régiment d'infanterie qui arrive à Brest, James Europe s'était engagé là-dedans, non pas comme musicien, mais pour s'engager dans l'armée, pour combattre, pour sauver la démocratie, avec un certain nombre de gens. Donc ce 319e régiment va arriver en France pour combattre. Et en fait, James Europe était le chef de musique de ce régiment, mais qui était composé de bien d'autres gens et que des Noirs. Et donc il arrive à Brest, il joue sa Marseillaise, et il part ensuite directement au front. Il n'est pas resté ici, contrairement à ce qu'on pensait, pour remonter le moral des troupes, etc., etc. Il est parti, et ce 319e est une des unités combattantes les plus importantes noires américaines. Elle a été placée sous commandement français, parce que l'état-major américain ne voulait pas que des Noirs commencent à apprendre à se servir d'armes, etc. Il y a eu tout un... Si vous suivez, vous regardez un petit peu, il y a eu des tas de discussions et d'atermoiements entre l'état-major américain et l'état-major français pour qu'on leur donne des unités combattantes, et en particulier ces unités qui étaient composées de Noirs. Et James Europe va partir, donc va au front. Le 319e a été surnommé par les Français « The Harlem », parce qu'il venait de New York. Au départ, c'était un bataillon de New York. « The Harlem Hell Fighters », c'est-à-dire les combattants de l'enfer. Ça a été un des régiments les plus récompensés. Ils ont eu la Croix de guerre, le premier régiment noir américain, le premier régiment américain à avoir eu la Croix de guerre en France. Ils sont ils ont fait un certain nombre, 6 mois de guerre à peu près. James Europe a été blessé à un moment et ils se sont aperçus qu'ils utilisaient la fanfare, le brass band de James, pour remonter le moral des troupes au front. Et donc, petit à petit, au bout de quelques mois, James Europe et son groupe se sont retrouvés à faire des concerts dans les hôpitaux, dans les villages, et c'est ce que vous entendiez dans le film tout à l'heure, où on les fait jouer. Alors, je vais vous repasser un petit peu de musique de James Europe. C'est un disque qu'il a enregistré en rentrant aux États-Unis. C'est donc le numéro 2. Je vais continuer pendant qu'il va baisser là-bas. Et donc, il va faire des concerts, etc. Et un des premiers concerts qu'il fait officiellement en tant que concert, c'est à Nantes. Et si vous allez sur Internet, vous trouverez quelqu'un qui dit « Le jazz est arrivé à Nantes, James Europe est arrivé à Nantes, etc. » Non. C'est arrivé à Brest, mais il a joué, son premier concert officiel était à Nantes. Et on a des articles de West Eclair qui relatent ce concert de James Europe à Nantes, mais c'est au milieu de l'année 18. Et James Europe va repartir ensuite aux États-Unis, donc ils vont revenir en 19 à Brest. Et là, ça ne se passe pas du tout de la même manière. Parce que là, l'armée américaine et l'état-major américain veut reprendre en main ces Noirs qui se sont émancipés en partant, en allant au combat, etc. Et j'allais dire, leur serre la vis. Et la military police a des consignes très strictes pour garder les Noirs américains qui repassent par Brest dans des camps et faire en sorte qu'ils se remettent dans le bain, en quelque sorte, de ce qu'ils vont retrouver. Et les punitions, en fait, qui étaient données, c'est que quand quelqu'un d'un régiment se tenait mal, etc., eh bien, on retardait son départ aux États-Unis pour tout le régiment. Donc ils vont passer quasiment 20 jours à Brest en attendant d'être embarqués, et donc en se tenant à carreau, sans aucun concert, sans rien, jusqu'au moment où ils embarquent. Et là, il se trouve que le commandant militaire de la place de Brest les voit passer et reconnaît les musiciens. Il dit « Mais attendez, c'est les musiciens. Est-ce qu'ils ne pourraient pas jouer quelque chose ?» Et donc, du coup, ils ont joué quelque chose en partant à Brest, mais ce n'était pas du tout prévu. Alors la deuxième petite histoire derrière sur ce régiment, c'est que quand ils sont partis des États-Unis pour venir en France avec tout la force, le corps expéditionnaire, ils n'ont pas eu le droit de défiler à New York parce qu'ils étaient noirs. Le défilé s'appelait le défilé de l'arc-en-ciel, parce que c'était toutes les couleurs qui s'alliaient pour sauver la démocratie, etc. Et la personne qui commandait ces cérémonies a expliqué que le noir ne faisait pas partie des couleurs de l'arc-en-ciel, et donc que le régiment noir ne pouvait pas défiler et jouer de la musique. Et donc le commandant qui commandait ce régiment, quand il est parti, il a dit « on reviendra et on verra ce qu'il en est ». Et au retour, comme ils ont été un régiment effectivement très, très primé, qui a bien combattu, etc., ils ont eu le droit de défiler sur la parade sur la 5e avenue en jouant à leur musique, etc. Et ils ont même été invités par les édiles de la mairie de New York à un repas, etc., ce qui était extraordinaire pour cette époque-là. Donc voilà, ça c'est l'histoire du 319e avec lequel c'est arrivé. Il faut voir aussi que James Europe, c'était quelqu'un, je vous disais, qui était assez extraordinaire, parce que quand il s'est engagé dans l'armée, c'était un des chefs d'orchestre les plus réputés de New York. Il avait sa vie, il n'était pas obligé de le faire, il l'a fait quand même. Et donc, il a joué en France, il a fait tout ce que je vous ai dit. Et quand il est revenu aux États-Unis, il en a conclu que finalement, ce n'était pas la peine d'essayer de faire de la musique qui imitait la musique des Blancs. Ce qu'il avait vu en France, le succès qu'il avait eu, faisait que cette musique pouvait être une musique de noir et c'était une musique originale. Et donc, il disait, il faut continuer notre musique de noir, il ne faut surtout pas essayer d'imiter les musiques de Blancs de l'époque. Il faut qu'on se fasse une musique à nous, etc. Alors après, est-ce qu'il a fait du jazz? Après, quand vous lisez un petit peu tout ce qui est écrit sur le sujet, bien évidemment, on ne sait pas si c'est lui qui a inventé une partie du jazz, etc. Mais toujours est-il qu'il a... Le problème, c'est que James Europe a été tué par un de ses musiciens en 1919, en mai 1919, donc il n'aura pas fait grand-chose par la suite aux États-Unis, alors qu'il avait sans doute un avenir extrêmement brillant. Certains le comparaient au Martin Luther King de la musique. Donc tout ça pour dire qu'on a eu quelqu'un d'extraordinaire, même si on n'est pas sûr que le jazz soit arrivé à Brest en 17, en 18, etc. Il y a quand même eu des gens extraordinaires qui sont passés par là et qui ont laissé une trace et donc qui ont marqué Brest. Et donc quand vous passerez la station Europe, pensez à James Europe. Ça c'est la première histoire. La deuxième histoire, je vous en ai un peu parlé, c'est cette histoire d'intégration des Noirs américains dans l'armée avec tout ce que ça comportait, à la fois... De ségrégation, hein, quand le 319e, avant de venir en France, est parti dans le Sud s'entraîner, la ségrégation dans le Sud était bien plus forte qu'à New York. Ça occasionnait, par exemple, des bagarres dans lesquelles les Noirs qui arrivaient dans le Sud, eh bien, on leur disait « il faut vous tenir comme des Noirs du Sud », etc. Et quand il y avait des choses qui se passaient mal, les Blancs ne se gênaient pas pour les punir. Et donc, il y avait des soldats blancs américains de New York qui faisaient des expéditions punitives contre les Blancs qui essayaient de brimer les Noirs, par exemple. Donc tout ça. Et ces Noirs qui sont arrivés en France ont été reçus de manière... en France, on ne savait pas qu'il n'y avait pas de ségrégation. Ils ont découvert qu'on pouvait vivre dans un monde où Blancs et Noirs... Dans un monde où Blancs ou Noirs pouvaient travailler ensemble, aller à la guerre ensemble, ce qui n'était pas non plus quelque chose de toujours très facile. Et... Par exemple, les officiers français ont accepté d'encadrer les Noirs, c'est ce que je vous disais, alors que dans l'armée américaine, ce n'était pas possible. Donc à partir de là, on a eu des unités combattantes, donc des Noirs qui ont été émancipés vis-à-vis de ça, qui ont pris un petit peu de hauteur, et quand ils sont rentrés, ont commencé à dire comment ça se fait qu'on avait le droit de se faire trouer la peau en France, et que maintenant on revient et on retourne quasiment au régime d'esclaves ou dans un régime de ségrégation. Ça, c'est pas sans incidence sur la suite de l'histoire du jazz, parce que donc les gens sont rentrés en 1819, et puis en 1920, il y a un nouveau président qui a été élu, les lois sur la ségrégation se sont renforcées, le Ku Klux Klan a repris du poil de la bête, justement, pour un peu essayer de reprendre tout ça en main, et donc à partir de la prohibition aussi, dont on entend parler, et donc un certain nombre de Noirs américains, en particulier dans les musiciens, ont fait le choix de plus rester aux États-Unis, mais de revenir en France, où ils avaient été accueillis, où leur musique avait été appréciée, en disant ben, « on va aller jouer là-bas, parce que là, au moins, on nous reconnaissait ». Donc voilà une deuxième petite histoire sur cette affaire-là. Qui est. Alors, ensuite, il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé, mais vous allez avoir à l'intérieur, il y a une petite exposition, c'est le camp de Pontanezen qui a été construit à Brest. Je vous l'ai dit, l'armée américaine a dit « bon, ben, pour débarquer, il faut faire une base de débarquement, on va faire arriver les soldats. » Et c'est Brest qui a été choisi avec Pontanezen. Donc il y a eu un camp immense qui a été construit à Pontanezen, qui, à une certaine époque, comportait plus d'habitants que Brest même. C'est-à-dire que Pontanezen était plus important, et on trouve, vous verrez à l'intérieur, un certain nombre de photos. On arrivait, il y avait des logements pour 50 000 personnes en dur et 30 000 personnes sous la tente. Alors on ne voit pas dans les photos, mais il y a eu même des tipis d'Indiens dans le camp de Pontanezen, il y a des photos qui le montrent, et donc on voit bien que c'était déjà un quartier dans lequel il y avait beaucoup de mixité, etc., et c'est assez intéressant. Voilà, sur l'histoire de Pontanezen, on va peut-être revenir faire écouter une ou deux petits morceaux de musique, alors sur la musique noire américaine.
Juste avant, j'aurais juste précisé qu'ici, il y a une passionnée, c'est Brigitte.
Oui, je la vois pas, justement.
Voilà, elle est partie.
Elle n'est pas là cet après-midi.
Mais toutes les photos qui sont dans la médiathèque, c'est elle qui est, voilà, personnellement, elle va rechercher. Il y a vraiment des choses très, très intéressantes qui sont à l'intérieur, donc il ne faut pas hésiter à les voir. Et elle a aussi préparé des petits textes, vous verrez, pour expliquer. Voilà, donc la passion est restée à Pontanezen, voilà, dans la médiathèque.
C'est
parce que je vais essayer de parler en même temps.
Excuse-moi, mais...
Oui, oui, moi, je la cherchais du regard, c'est pour quand elle reviendrait, pour lui dire on a beaucoup discuté avec elle. Alors, ça fait penser à quelque chose. Si vous avez des éléments sur ces histoires-là... Ok, ben on va passer juste un petit morceau de James Europe, là, un extrait... Ça, je peux parler un peu dessus. Donc là, vous avez de la musique de James Europe. Tu es bien sur le 2, là. Hein ? Tu es sur le numéro 2, là ? Ah, ben, c'est le même genre de musique, mais c'est pas James Europe, là, c'est... Non, c'est bon. C'est qui ? Fabienne. C'est le même genre. Allez, j'ai pas le nom de qui c'est. Alors, sur le quartier de Pont-à-Nézène, je vous dis, vous verrez plein de choses. Je vais vous faire écouter quelques morceaux, parce que dans notre association, on essaye de montrer que le jazz est plutôt festif, et puis il y a des gens qui nous attendent après. Alors, le jazz, c'est aussi la Nouvelle-Orléans, c'est aussi des fanfares. Si tu peux nous passer le numéro 3, là, je vais vous faire écouter un petit morceau, c'est un enterrement à la Nouvelle-Orléans. 4. Il n'y avait pas la moto à l'époque. Donc ça commence comme un enterrement, vous l'avez compris. Donc là, il parle sur le mort, on entend les pleureuses derrière, et puis après, c'est parti. Donc ça se faisait en fanfare et en marchant. Voilà, c'est un enterrement. Donc vous voyez que le jazz, c'est plutôt quand même festif, etc. Hein, voilà. Alors je vous laisse un petit morceau là-dessus. Voilà. Alors on va arrêter là. On va arrêter là. Si vous voulez, on pourra repasser après, mais j'en ai quelques-uns à vous faire écouter. J'en ai un autre. Alors là, c'est de la musique créole, parce qu'aux États-Unis, il y avait la langue créole, et vous allez voir qu'il y a des morceaux de jazz dans lesquels il y a du français. Si tu peux y aller. Voilà, on va faire avancer un peu.
J'ai mangé trop du pain,
il est malade. Voilà le genre de choses aussi qu'on trouve. Ah ben voilà, il a arrêté, c'est bien. D'autres musiques, vous connaissez le blues. Alors, on peut en écouter, c'est l'origine de la musique noire américaine, du moins en partie. Le blues, c'est intéressant parce que c'était des gens qui étaient, sous pression, qui étaient dans un monde de noirs, qui à l'exclu de leur société, donc ils s'étaient créé une société dans laquelle ils racontaient plein de choses dans leur blues, ils exprimaient leur souffrance, mais ils le faisaient en chanson, et puis ils racontaient leur vie, il y avait à la fois des blues, je vais vous en faire écouter, qui racontent la ségrégation, etc. Il y en a d'autres qui racontent des histoires beaucoup plus marrantes d'un village à un autre, ou de ce qui est arrivé. Donc je vais vous faire écouter quelques-uns. Alors le premier, je l'ai choisi parce que hier il y avait un match de foot, etc. Vous vous souvenez de l'expression « black, blanc, bleu » ? Eh bien, ce blues qui a été écrit dans les années entre 1900 et 1920, il s'appelle Black, Brown and White, c'est-à-dire noir, marron et blanc. Et il exprime déjà des choses marrantes, vous verrez. «
this little song that I'm singing about, people you know is true. If you black and gotta work for a living, this is what they will say to you. They say, if you's white, she's all right.
Si vous êtes blanc,
if
c'est bien.
Brown,
si vous êtes marron, vous restez bloqué. Et si vous êtes noir, vous partez.
Brother,
voilà ce qu'il dit.
Get back, get back, get back.
Bon, on va en passer un autre. Alors, voilà. Après, si vous voulez, je peux vous donner les références des disques, etc. On va passer au 8. Je suis désolé, je saute le 7. Je ne veux pas être trop long. Alors, attends, si tu peux mettre en pause, je vais raconter. Ça, c'est l'histoire d'un mariage. Hein. Le titre du morceau, c'est Wedding Day Blues. C'est Cousin Joe. Et alors là, c'est complètement autre chose. Il raconte son mariage et il dit « On a essayé dans la cuisine ». On a essayé dans la chambre à coucher, on a essayé dans le couloir, on n'y arrivait pas. On a essayé dans la baignoire, on n'y arrivait pas. Et à la fin, on apprend que c'est pour prendre une photo, pas pour ce que vous pensiez. Vas-y.
I was all togged up in my tuxedo. My bride had a gown that was dragging the floor. When we left the church, everything was nice. There was such another throwing of shoes and rice. We got married in the afternoon, then was off on our honeymoon. When I got back home with my bride, I was so impatient to get inside.
Voilà. Donc là, il arrive dans la maison.
We chatted on the front porch. We chatted in the hall. We chatted in the dining room. We even backed against the wall.
Donc il a essayé dans la salle à manger. J'ai pas entendu le début parce que. Voilà. Donc c'est la musique que je vous fais écouter aussi. Mais voilà, les histoires, c'est. On a essayé, on n'y est pas arrivé. On va écouter un autre morceau, cette fois-ci de Lightning Slim, le 9. C'est My Starter Won't Work. C'est-à-dire qu'il a une panne au réveil le matin. Voilà ce que c'est.
My starter won't start this morning. And I'm about to lose my mind. My starter won't start this morning.
Mon starter n'a pas voulu démarrer ce matin. Il parle pas de sa voiture, il en avait pas.
I wanna go and see my little baby. But my machine is all out of time. I got water in my gas tank, and my battery's all run down. I've got water in my gas tank, and my battery's all run down.
Alors, je vais conclure mon propos. Hein.
Donc, pour vous rappeler, James Europe, Pontanezen, hein, donc un camp américain immense. Alors, pareil, il y avait du temps qui ne devait pas être très bon dans l'année 18, parce que c'était dans la boue, ils ont été obligés de mettre des caillebotis partout. Et donc, vous verrez dans l'exposition, il y a un journal qui s'appelle, ça y est, le nom m'échappe, de Pontanezen Duck Board, voilà. Qui veut dire le journal, du moins Pontanezen, Caillebotti. Duckboard, c'est le Caillebotti. Et donc, ils avaient mis des Caillebotti partout parce qu'ils marchaient dans la gadoue, etc. Maintenant, le travail qu'on a à faire continue parce que, en fait, je vous ai dit, il y a cette histoire de James Europe qu'on connaît bien, mais il y avait déjà des Noirs américains qui étaient arrivés avant à Pontanezen pour construire parce qu'ils étaient plutôt dans le génie, dans l'armée, etc. Et ils avaient des orchestres. On voit qu'il y a des tas d'orchestres qui ont joué à Brest dans ces années-là. Il y avait un. Le YMCA, donc ceux qui connaissent la chanson YMCA, c'est les auberges de jeunesse américaines. À Brest, il y avait aussi une auberge de jeunesse qui organisait des concerts dans la ville de Brest dans les années 17, qui s'installe là. Alors il y a les chewing-gums qui arrivent, il y a des tas de choses qu'on a eu l'impression de redécouvrir dans la Deuxième Guerre mondiale, mais déjà en 17, il y avait un certain nombre de choses qui sont arrivées. Et donc, le camp de Pontanezen, il y a eu du jazz qui s'est installé à Brest et qui a vécu après. Et donc, on est en train, nous, de travailler avec un certain nombre de gens sur la suite de l'histoire du jazz à Brest, parce que certains l'ont peut-être oublié aujourd'hui, mais des gens comme Armstrong, comme Ella Fitzgerald, etc., sont venus jouer à Brest dans les années 70. Il y avait des grands festivals de jazz à Brest qui petit à petit, on a beaucoup de mal aujourd'hui à retrouver du jazz à Brest, alors que ça a été très, très actif depuis les années 17, où tout ça a été lancé. Et donc, on va faire un travail de recherche et de mettre en place les gens, du moins de retrouver la mémoire des gens pour raconter ces histoires-là, non seulement celles de 18, mais aussi celles d'après. Et juste pour finir, et avant de passer la parole au fanfare, je voulais vous faire écouter une petite marche de la Nouvelle-Orléans encore. Et puis après, je passerai la parole aux Funky Dirty Chickens, qui, à mon avis, perpétuent la tradition, même s'ils font autre chose, parce que c'est festif. Et vous l'avez entendu, ce que je vous ai fait écouter, le jazz, c'était des histoires que, même quand c'était du blues, il y avait des histoires marrantes qu'on racontait dans les chansons, etc. C'était pas pour s'asseoir et prendre un air religieux, c'était pour battre du pied et c'était pour s'amuser, danser, etc. Voilà, donc un petit morceau, et puis après... S'ils ne sont pas trop mouillés sous la pluie, en fait, ils ont une possibilité d'y aller à l'abri, on leur laissera la scène. La dernière.
Pardon. Voilà. Ben écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous voulez avoir plus de renseignements ou des contacts sur le sujet, la présidente de l'association, elle est là-bas, c'est Fabienne. Elle a des petites cartes de visite où vous pourrez nous contacter pour avoir soit plus de détails, soit on est à la recherche d'informations, etc. Donc n'hésitez pas. Et maintenant qu'on a donné le ton pour la fanfare, ils peuvent y aller. Les Dirty Funky Chicken. Thank you.
de la fanfare. Non.